que je t'ordonnerai. Il y a eu quelques changements dans le programme que nous avions établi dans la dépendance du Seigneur. Et ce soir, j'ai pensé que je devais vous parler du baptême, puisque nous ne pouvions pas allonger sur ce sujet au lieu même où nos amis ont passé par l'immersion totale. Alors nous voulons demander au Seigneur de bénir cette rencontre. Tu vois, ô Dieu, ce qui s'est passé, et nous te bénissons de ce que tu nous as tous gardés, les petits comme les grands. Nous croyons aussi que tu préserves nos amis qui sont venus de si loin pour participer à cette fin de journée qui touchait aussi leur cœur. Nous voulons te rendre grâce par avance pour tout ce que tu feras encore pour nous dans ces dernières heures. Et nous t'adorons. Amen. Bien, je vous ai simplement dit, au lieu du baptême, que l'ordre de baptiser se trouvait dans les évangiles. Qui a donné cet ordre? Le Seigneur lui-même. Le Seigneur ressuscité. Dans le chapitre 28 de Matthieu, nous lisons cette parole. Au verset 6 du chapitre 28 de Matthieu, je veux dire au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Nous avons lu dans Tite que Dieu ne pouvait pas nous mentir. Et après avoir affirmé que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre, il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc dans toutes les nations, il devait prêcher l'évangile pour que des disciples suivent Jésus. Et ses disciples, ils devaient les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, au nom de la Trinité tout entière. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors, n'oublions pas ça. Enseignez-leur à ces baptisés à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge ou du siècle. Dans l'évangile de Marc maintenant, nous allons lire encore un texte, puisqu'on est toujours dans l'évangile, au chapitre 16 de l'évangile de Marc. Au verset 9e. Jésus ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent, eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle, c'est donc l'évangile, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc le baptême est relié à la foi. Celui qui croira, donc il faut croire, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'il est dit, celui qui ne sera pas baptisé sera condamné? Non. Mais s'il croit, il se fait baptiser, parce que c'est une obéissance, parce que le Seigneur l'a demandé. Mais il y en a qui n'ont pas pu être baptisés. Est-ce qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas pu être baptisés? Le brigand sur la croix, est-ce qu'il a été baptisé? Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu seras avec moi dans le paradis. Donc ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi qui sauve. Mais quand on a été sauvé par la foi, on obéit au Seigneur et puis on se fait baptiser et nous allons voir ce que cela donne. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point le mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et alors maintenant, après vous avoir montré l'institution du baptême par Jésus et l'ordre de baptiser, on voudrait savoir comment ils s'y sont pris, les disciples. Quelle a été leur manière de baptiser? Alors, on trouve la réponse à cette question dans quel livre? Le livre des Actes. Les Actes des Apôtres. Jésus était remonté au ciel. Et puis maintenant, alors, la Pentecôte a lieu, le Saint-Esprit est descendu, qui confirmait que le Seigneur était vraiment dans la gloire. Et nous lisons au chapitre 2 des Actes, que la foule de Jérusalem, au verset 37e, après avoir entendu donc ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Alors voilà. Une première difficulté, c'est que jusqu'à présent, on avait lu qu'il fallait baptiser en quel nom? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il y a des gens, en disant cela, ils ont dit, nous n'allons pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que dans les Actes, il est dit, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Et puis ils se sont divisés. Alors il y a des gens qui sont divisés à cause de cela. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent, alors quand on veut savoir qui peut être baptisé, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc il faut accepter la parole. Et alors on est baptisé. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils percevaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Et alors, nous avançons, nous passons plus loin et nous arrivons au chapitre 8 peut-être, je saute quelques passages, mais au chapitre 8 des Actes, nous lisons ceci. Saul, donc, de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, avait donc approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Et Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et vous avez alors ce chapitre 8, je ne vais pas le lire parce que je crois qu'on vous l'a lu dans vos groupes. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Donc Philippe était très occupé, c'était un diacre, mais qui avait le don de prêcher la parole, il a prêché le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. Et de quoi parlait-il ? De Jésus, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alors, un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». On attribuait à cet homme la puissance de Dieu. Il s'attachait à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. C'était des procédés diaboliques, mais qui avaient une apparence de spiritualité. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, vous voyez qu'on y est dans ce royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Donc, dans une ville où il y a des hommes et des femmes et une grande joie, qu'est-ce qu'il doit y avoir aussi? Il doit y avoir des enfants, hein? Mais il n'est pas dit que les enfants ont été baptisés, des bébés. Tant les hommes que les femmes se firent baptiser. Simon lui-même, crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Mais on a vu que Simon n'était pas réellement converti. Alors, au verset 26, on apprend qu'un ange du Seigneur a adressé la parole à Philippe et lui dit « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, vous voyez que l'Esprit parle, et qu'est-ce qu'il lui dit? Avance et rejoins ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera. Car sa vie a été supprimée de la terre. Et l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Parce que dans ce chapitre 53 d'Ésaïe, c'est de Jésus qu'il est parler 700 ans avant qu'ils viennent. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et quelqu'un m'a dit qu'il avait été très touché ce soir par le témoignage qui était rendu sur ce texte. Au fond, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il n'est pas dit d'âge. Hein. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Il ne lui a pas dit, on va attendre un mois, et puis on te fera un cours au sujet du baptême. La question c'est, est-ce qu'il croyait? Il croyait, eh bien il a été baptisé. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, alors il continua son chemin tout joyeux. Puis après, vous avez la conversion de Paul. Et quand Paul s'est converti sur le chemin de Damas, au chapitre 9, Dieu lui a envoyé Ananias. Et au verset 17 du chapitre 9, Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans sa maison, il imposa les mains à Saul de Tarse. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, et il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut quoi? Baptisé. Donc vous voyez, le baptême, c'est pas longtemps après la foi, c'est, pour ainsi dire, tout de suite, immédiatement. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Et puis alors, il a eu là tout un témoignage. Maintenant, si vous arrivez au chapitre 10 de ce livre des Actes, vous voyez l'apôtre Pierre qui va chez Corneille et qui trouve là tout un rassemblement. Les amis de Corneille ont tous été invités et Pierre donne la parole donc Corneille donne la parole à Pierre. Et nous lisons au verset 34, déjà depuis le verset 33, quand Corneille explique pourquoi il a fait chercher Pierre, il lui dit « Aussitôt je t'ai envoyé chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de nous enseigner. » Et c'est au fond le thème que nous avons, nous-mêmes, c'est que nous devons vous dire tout ce que le Seigneur nous a ordonné. Tu leur diras tout ce que je t'ai ordonné. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Et Pierre affirme, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage de lui que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, comme Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors, Pierre repris, peut-on refuser l'eau du baptême? Voilà, nous sommes toujours dans le baptême. Hein? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voyez, là, le Saint-Esprit était tombé sur eux avant qu'ils soient baptisés. Ils avaient le Saint-Esprit avant qu'ils soient baptisés. De sorte que ce n'est pas le baptême en lui-même qui donne nécessairement le Saint-Esprit. Il ordonna de les baptiser en quel nom? Là, au nom de Jésus. Et ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Et ils ont été baptisés. Mais quand Pierre est revenu à Jérusalem, il s'est fait attraper de la plus violente manière par ses collègues qui ont dit, comment est-ce que tu as pu aller chez les païens et agir de la sorte? Et puis il leur a raconté tout ce qui s'est passé dans le chapitre 10, que je ne peux pas lire, mais que vous connaissez certainement, que vous lirez. Et alors, verset 18, au chapitre 30, après avoir entendu ce que Pierre disait, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Et puis ensuite, alors, nous pourrions parler encore d'autres baptêmes qui se faisaient là où les gens se convertissaient. On pense spécialement au baptême qui a eu lieu en Macédoine, à Philippe, quand Paul a prêché l'évangile à Philippe, il est dit au chapitre 16, il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, donc on a baptisé non seulement elle, mais les siens, donc ça veut dire que les siens ont cru, et elle nous invita en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa instamment. Alors là, on voit un baptême de toute une famille. La mère d'abord, et puis tous les siens. Et puis, un peu plus loin, c'est l'histoire du geôlier de Philippe. Paul et Silas avaient été arrêtés, ils étaient en prison, on les avait roués de coups, verset 23 du chapitre 16. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se lamentaient. C'est ça, votre version ? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, il entra et se précipita aux pieds de Paul tremblant. Et il les mena dehors, et il leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, qui ?» Toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt, c'est pour répondre à cette question qui vous préoccupait, quand est-ce qu'on peut être baptisé ? Une fois qu'on a entendu la parole, et qu'on la croit. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc la maison tout entière s'est convertie au Seigneur. Et alors, je ne peux pas allonger là-dessus, mais la pratique du baptême, donc vous voyez comment elle se faisait par une immersion totale. Baptiser veut dire plonger. Alors, on va arriver à la signification qu'a le baptême. Et la signification du baptême, vous la trouvez dans les Épîtres. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles encore un instant au chapitre 6 des Romains. Ce fameux chapitre 6, dont on m'avait dit en 1960, quand je suis venu pour la première fois au Québec, les Québécois ne comprendront jamais ce chapitre 6 des Romains. Il faut être content qu'ils aient compris le petit salut. Ils sont baptisés, mais ils ne comprendront pas le sens profond du baptême. Donc ils resteront juste des sauvés. Être juste des sauvés, ça m'intéresse pas, moi. Être juste des sauvés pour ne pas aller en enfer. Le crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc voilà, on a cru il y a X années. Alors on nous dit, moi il y a tant d'années que je suis sauvé. Puis quand on les regarde, on ne voit pas tellement qu'ils sont sauvés. Ils se plaignent tout le temps. Ils marchent d'une façon boiteuse. Alors, on se demande ce qui leur manque, mais il leur manque d'avoir compris le sens profond du baptême. Qu'est-ce qui se passe au baptême? Qu'est-ce qu'on confesse au baptême? On va lire ce chapitre 6, quelques passages. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, et on est baptisé en qui? En Christ Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Ce que vous avez voulu confesser, c'est que vous croyez que non seulement Christ est mort, mais puisque vous lui avez donné votre cœur, le Seigneur vous a pris avec lui dans sa mort. Et quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous êtes. Et c'est cela que vous devez saisir, que vous soyez Québécois, Suisse, ou italien ou français, c'est cela que nous devons saisir, et c'est cela que beaucoup n'ont pas saisi. La mort de Christ, c'est notre mort, et c'est cela la délivrance. Car tant que nous vivons nous-mêmes, par nous-mêmes, qu'est-ce qui arrive? Nous péchons. Mais une fois que nous sommes morts, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'un mort pêche? Est-ce qu'un mort aime fumer? Vous avez essayé de donner une cigarette à un mort? Oh, je sais qu'on leur laisse les lunettes même dans le cercueil, mais oui, j'ai vu ça. Mais est-ce que cet homme qui fumait beaucoup, est-ce que vous lui donnerez un paquet de cigarettes quand il est mort? Si jamais ça lui, il en avait le besoin. Non, une fois mort, on est libéré. Hein. Eh bien, l'Écriture nous dit qu'il faut qu'on se considère comme mort. C'est la foi qui s'empare de la mort de Jésus. Jésus n'est pas seulement mort pour lui, il nous a pris avec lui dans sa mort. Et à la mort de Jésus, je suis mort. Mais vous me dites, mais non, mais moi je sens bien que je suis vivant. Je suis mort. C'est pas ce que je sens qui compte. C'est ce que le Seigneur me dit. Alors je m'empare de cette vérité, la mort de Christ. Nous avons été baptisés en sa mort pour que tous les jours nous vivions cette mort que nous avons vue ce soir. Quand les jeunes ont été plongés, ils ont été complètement couverts, hein. Ils ont disparu sous l'eau. Mais ils n'y sont pas restés, parce qu'alors, il y aurait eu la mort réelle. Mais ils sont sortis comme le Christ. Est-ce qu'il est resté dans le tombeau, une fois mort? Non, il est ressuscité, il est vivant. Eh bien, vous mourrez avec lui, et vous ressuscitez en lui d'entre les morts. Par quelle puissance? Par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions maintenant en nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle qui commence. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, quand vous avez accepté Christ, vous devenez une même plante avec lui. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Cette nature qui était vendue au péché, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Combien de fois je me suis dit quand j'étais jeune, pour que je ne pêche plus, qu'est-ce qu'il faudrait? que je sois mort. Hein? Mais le Seigneur me dit, mais tu es mort. Je te dis que tu es mort. Considère que ma mort, c'est la tienne. Et crois cela. Et alors, il y a une délivrance qui s'opère. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, parce que Jésus n'est pas resté dans la mort. Mais si nous sommes morts avec Christ, Christ est mort à cause de quoi? À cause de nos péchés, mais non seulement à cause de nos péchés, mais il nous a pris en tant que pécheurs, et nous sommes ensevelis en lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de se faire rebaptiser plusieurs fois. C'est ça qui est faux. On ne se fait pas baptiser plusieurs fois. Une fois qu'on s'est fait baptiser, c'est qu'on a compris qu'on était baptisé dans sa mort. Alors, Jésus est mort une fois pour toutes. Et nous sommes morts une fois pour toutes en lui. Et maintenant, il vit, mais pour qui vit-il? Il vit pour Dieu, mais c'est ça qu'il faut saisir. Pour qui vivez-vous en 1998 et dans les années qui peuvent encore vous être données si le Seigneur n'est pas revenu? Quel est le but de votre vie? Est-ce que vous vivez pour Dieu? S'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit pour Dieu. Alors la raison d'être d'un vrai croyant, c'est de vivre pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Le péché, vous ne pouvez pas le supprimer, le péché, il est là. Mais si vous vous tenez pour mort, est-ce que le péché pourra faire quelque chose? Non, il ne peut rien. Vous pouvez tenter un mort. Ça ne bouge pas. Mais vous êtes vivant pour Dieu. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à vos convoitises. Il y a la convoitise qui est là. Mais si je suis mort, est-ce que la convoitise va me dominer? Est-ce que la convoitise pourra quelque chose? Elle perd sa force. Hein? Avec un mort, il n'y a rien à faire. Et c'est lourd de traîner le cadavre. Hein? Alors, vivez cela, c'est ça la vie chrétienne. C'est vivre de cette mort. Et cette mort, c'est la mort de Christ. C'est pas se faire mourir soi-même, mais prendre dans la foi que quand Jésus est mort, il n'est pas seulement mort pour mes péchés, mais je suis mort en lui. Et le baptême est le signe de cette mort. Ne livrez pas, verset 13, vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Oh, que le Seigneur, par son esprit, vous convainque et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Vous dites à Dieu bien maintenant, fais de moi ce que tu veux. Emploie-moi comme tu le veux. On n'est pas sauvé pour ne pas aller en enfer, on est sauvé pour vivre sur la terre en attendant que Jésus vienne. Et pour qu'il puisse nous employer. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, cette justice qui est en Christ. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Eh bien, méditez sur ce chapitre et nous allons terminer par un verset encore dans l'épître. De Pierre, pour que vous voyez que Paul et Pierre disent la même chose. Parlant du baptême, au chapitre 3 de la première épître de Pierre, il nous dit que l'arche de Noé était, au verset 21, une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais le baptême, c'est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous vous baptisez, quand vous vous faites baptiser, vous demandez à Dieu que cet engagement puisse réellement se réaliser et que cette mort que vous avez voulu vivre dans l'eau du baptême soit une réalité quotidienne. L'apôtre Paul disait qu'il mourait chaque jour. Je meurs chaque jour. Il vivait son baptême chaque jour. Il ne faut pas que vous vous disiez, ben voilà, moi je me suis fait baptiser le 9 juillet et puis c'est fait. Oui, vous vous êtes fait baptiser le 9 juillet. Vous avez dit au Seigneur et devant tous que vous renonciez en quelque sorte à votre vie pour vivre maintenant de la sienne. Et alors, peut-être que vous avez remarqué comment j'ai essayé, et cela depuis longtemps, de lier le nom de Jésus et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne va pas se diviser parce que les uns baptisent au nom de Jésus et les autres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Jésus ou quand l'Écriture a enseigné le baptême, il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était au nom de la Trinité. Mais après, évidemment, comme Jésus était la manifestation de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, on a voulu les séparer, mais on n'a pas à les séparer. Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez poser ? Béni de Dieu. Oui. Aimé de Dieu. Il y a autre chose? Vous avez prié beaucoup pour demander que Dieu vous fasse réaliser ce que la mort de Jésus peut vous apporter. La mort de Jésus, c'est elle qui nous apporte la vie. Quand je me considère comme mort, Jésus est mort et je suis mort en lui. Il y a une puissance qui nous libère du péché. J'ai connu une femme autrefois qui vivait en France et qui était très colérique. Puis on lui a parlé de la mort avec Christ qui pourrait la délivrer de la colère. Elle se fâchait toujours contre sa sœur. Et ils avaient une grande campagne. Et alors, elle a compris certaines vérités. Et quand ça n'allait pas dans la cuisine, et qu'elle risquait justement d'insulter sa sœur, se bagarrer, elle partait dans la grange. Puis elle disait, Seigneur Jésus, je suis morte, je suis morte, je suis morte. C'était très violent, je suis morte. je dis bon. Puis, quand elle était un peu calmée, elle rentrait dans la cuisine, et la sœur était toute étonnée, elle était gentille. Mais ça a été violent pour commencer, mais après, elle a eu la victoire complète. Se tenir pour mort. Est-ce qu'un mort se met en colère? Mais il faut y aller tout de suite. Alors, dans la foi, on réalise cette mort. Seigneur, tu l'as dit. C'est pas ce que je ressens qui est vrai, c'est ce que tu dis, toi. Et alors, on a la puissance qui délivre de la mort. Eh bien, j'espère que, tout en étant québécois ou autre, nous serons de ceux qui vivent de la mort du Christ. Dieu notre Père, à la fin de cette journée, nous voulons te demander que ce que nous avons vécu aujourd'hui marque notre existence et que nous puissions comprendre que le baptême nous identifie au Christ qui est mort, une fois pour toutes, au péché, et que nous puissions avoir des victoires positives sur toutes nos tendances, et que nous soyons libérés pour que tu puisses nous employer notre être tout entier à te glorifier et à te servir. C'est notre prière ce soir, en te demandant de préparer toute la journée de demain pour que nous soyons bénis de ta bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Oui, je disais que vous avez peut-être remarqué que j'ai dit « Pour le Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, on lit les deux, hein, mais on le fait pour le Seigneur Jésus, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on ne fait pas de division entre le Seigneur Jésus et le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit que toute la plénitude de la divinité s'est plus à habiter dans le Christ. Dans le Christ, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais comme Jésus l'a dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous baptisons au nom de la Trinité, mais par le Seigneur Jésus. Voilà. Alors demain soir, n'est-ce pas moi qui ferai la réunion ? Demain soir, nous aurons une réunion de témoignages où chacun sera libre d'apporter ce qu'il a dans son cœur. Si vous avez reçu une bénédiction dans ce temps, eh bien dites-le, ça encouragera les autres. Et puis, si vous avez fait une expérience, si le Seigneur vous a dit quelque chose, vous a parlé, parce que nous croyons justement que nous avons un Dieu qui nous parle encore. Mais il faut avoir une oreille ouverte pour l'entendre, et puis un cœur obéissant pour accomplir sa parole. Parce que si souvent le Seigneur ne peut plus rien nous dire, c'est parce qu'on n'a pas obéi. Vous voyez, Abraham, pendant 13 ans, si je ne m'abuse, il n'a plus entendu la voix du Seigneur. Pourquoi ? Comment ? C'est-à-dire que il a écouté la voix de sa femme qui lui a dit « Aide-toi si elle t'aidera. Tu es trop vieux pour avoir un enfant ou je suis trop vieille pour avoir un enfant. Prends une mère porteuse. Regarde. » Ils ont pris la petite servante. Il n'a pas dit non. Puis pendant 13 ans, le Seigneur l'a plus parlé.
faut faire attention à cela. Parce que le Seigneur aime à nous parler, mais il se tait quand il voit que nous ne manifestons pas une affection spéciale. Mais on ne veut pas juger Abraham, là, parce qu'il avait attendu longtemps. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. C'est pas très jeune. Il est mort à quel âge? 175. Donc il a vécu encore 100 ans après son appel. Mais l'enfant, il l'a eu quand? À l'âge de 100 ans. Donc pendant 25 ans, quand ils sont arrivés en Israël, ils attendaient cet enfant. Mais il semblait qu'ils ne pouvaient plus l'avoir. Parce que le Seigneur vient leur parler. Et ils ont eu Isaac. Mais ce n'est pas Ismaël qui l'ont fabriqué avec la violence qui est vérifié. C'est la parole que le Seigneur lui a donnée qui s'est appelée.
Voilà, mes amis, c'est bien. Il y a une collation?